Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute du programme de Studio Tamani, il est 18h à Bangassi, dans la région Ndekaï, le titre de cette édition du soir. Le financement de l'agriculture et de l'agroécologie dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest a été débattu ce matin à Bamako. Des recommandations sont attendues à la fin du plaidoyer organisé par l'Institut de recherche et de promotion des alternatives de développement en Afrique, IRPAD. Le prédicateur Chuala Bayaya Haider a été placé ce matin sous mandat de dépôt. Il est accusé d'atteinte au crédit de l'État et trouble à l'ordre public. Comment prévenir les tensions et les conflits post-électoraux? La question était ce matin au cœur d'une rencontre de sensibilisation des jeunes et des enfants. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilo Maïga et à la mise en onde de Gagné Kanté. Bonsoir à toutes et à tous. Une rencontre de restitution et de plaidoyer autour de l'étude, le financement de l'agriculture en général et de l'agroécologie en particulier dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest a eu lieu ce matin à Bamako. Pendant 3 jours, les experts examineront les études réalisées dans les différents pays dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour aider les décideurs nationaux et locaux à faciliter le financement de l'agriculture. La session est une initiative de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement en Afrique, IRPAD. Reportage de Khalifa Goïta avec la voix de Mariam Koulibaly.
Après examen des chocs liés à l'agriculture, les experts présenteront des recommandations pour mieux financer l'agriculture dans tous les états couverts par l'étude, nous dit Mamadou Goïta, directeur exécutif de l'IRPAD.
Quand on parle d'agriculture, on parle de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie. Nous avons essayé de désagréger. Qu'est-ce qui va dans le fonctionnement des institutions? Qu'est-ce qui va dans l'appui direct aux producteurs et qui va aussi dans la transformation des produits, mais aussi la commercialisation des produits?
Le représentant du ministère de l'Agriculture a salué la démarche de l'IRPAD. Yaya Nyafo est convaincu que les conclusions de l'atelier aideront les États respectifs dans leur politique de développement agricole.
Tout le monde sait les difficultés que court le monde rural face à des chocs liés à les problèmes d'insécurité alimentaire, des chocs climatiques. L'agriculture, c'est le moteur de la croissance économique de nos pays. Nous avons déjà une politique, ça vient vraiment renforcer les capacités de mise en œuvre de ces instruments qui sont au niveau du ministère de la.
Il faut noter que les travaux de cette étude ont concerné le Burkina Faso, le Sénégal, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et le Mali. L'impact du Covid-19 sur les systèmes alimentaires au Burkina Faso, la Guinée, le Niger et le Mali est aussi au cœur des échanges.
Reportage de Khalifa Goïta. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le prêcheur Chuala Bayaya Haider a interpellé hier mardi par la brigade d'investigation judiciaire a été placé ce matin sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l'État et trouble à l'ordre public. Selon des témoignages de ses fidèles regroupés ce mercredi devant le siège de la Bige, le leader religieux a été interpellé après avoir dénoncé lors d'un prêche les coupures intempestives d'électricité. Pendant ce temps, plusieurs autres personnes sont en détention à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour atteinte au crédit de l'État. Les explications avec Ousmane Yalibouli.
Le leader religieux Chuala Bayaya Haider a été placé ce mercredi matin sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal de la commune 3 du district de Bamako. L'information est confirmée par des sources judiciaires et plusieurs de ses proches. Le prêcheur a été arrêté pour atteinte au crédit de l'État et trouble à l'ordre public. Cette arrestation a eu lieu après son audition survenue peu après son arrestation ce mardi par des éléments de la brigade d'investigation judiciaire. Le guide religieux avait dénoncé dans son prêche du vendredi dernier les coupures intempestives d'électricité. Ce mercredi, ses partisans et des leaders religieux se sont mobilisés devant les locaux de la Bige pour exiger sa libération. Certains ont même passé la nuit devant la structure pour le soutenir. Avant lui, plusieurs autres personnes ont été interpellées et déférées en prison pour des faits d'atteinte au crédit de l'État. C'est le cas de Adama Diarra di Ben Le Cerveau, leader du mouvement Yerewolo Debout sur les remparts et anciens membres du CNT. Il y a aussi Sidiki Kouate, un proche de Ben Le Cerveau, Rukiatou Doumbia alias Tanti Rose et Youssouf Bachili di Rashbach incarcérés pour la même infraction. Il faut noter que les sieurs Adama Diarra et Rukiatou Doumbia devront comparaître devant la justice au mois de janvier prochain.
L'action pour la promotion de jeunes et des enfants communicateurs APGEC a organisé ce mercredi une rencontre pour sensibiliser le jeune sur les conflits post-électoraux. Selon les responsables du regroupement, les échanges porteront sur les thématiques de prévention des tensions et conflits qui peuvent survenir après les futures élections. Plus de détails avec Sita Sidibé.
Pour Diko Habibatou Salihou, secrétaire exécutif de l'APGEC, cette rencontre vise à informer la couche juvénile sur les conséquences qui peuvent découler des différentes élections.
L'action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs, avec le soutien de l'ambassade du Canada, a initié ce projet qui se veut participatif au maintien de la paix en mettant un accent particulier sur la cohésion sociale, notamment auprès des jeunes en période pré- et post-électorale. Nous sommes convaincus que pour une nation paisible, il est indispensable d'avoir accès à une information fiable.
Cette formation est vraiment salutaire pour les jeunes, a souligné René Sanogo, chef de division promotion enfants au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille.
De telles initiatives, nous les apprécions beaucoup parce que la participation des jeunes et des enfants, c'est pour honorer un peu un de nos engagements. Les crises post-électorales, c'est fréquent, c'est pas au Mali seulement. Quand il y a élection, il faut d'abord sensibiliser toute la population. Quand il y a crise, c'est les enfants et les femmes qui en pâtissent les premiers.
A rappelé que près d'une vingtaine des membres de l'APGEC venus des régions du Mali ont participé à cette rencontre.
La journée internationale des migrants a été célébrée à Sikasso ce 18 décembre 2023. Le thème choisi cette année est « Mobilité et changement climatique ». Il s'agissait pour les organisateurs de créer un cadre d'échange et de plaidoyer sur la problématique de la migration et le changement climatique afin de favoriser l'engagement citoyen pour le respect des migrants. Cette célébration a été organisée par l'AGICAD et l'OIM. La même activité a été organisée par l'association d'Ireben à Gao. Une conférence de plaidoyer en faveur des droits des migrants et matchs de football entre les migrants et les forces de sécurité ont été le moment fort de la journée.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Elle se prépare activement selon des citoyens à San, Kai et à Koutiala, malgré la cherté de la vie. Des prières pour le retour de la paix et la cohésion sociale seront faites, ont-ils prévenu. Écoutons quelques réactions compilées par Aïcha Tayara avec le concours de nos correspondants.
Ici à Koutiala, on prépare la fête de Noël. La vie est très chère. L'habillement, tout. Le pire, l'insécurité.
L'essentiel n'est pas seulement sur les plans matériels. L'essentiel, c'est se préparer aussi spirituellement pour accueillir l'enfant Jésus dans son cœur propre, dans la santé aussi.
Je suis à Saint-Médine. La fête de Noël représente beaucoup pour nous les chrétiens. Nos enfants et nous-mêmes sommes heureux. Nous mangeons et fêtons avec nos voisins non chrétiens.
Ici à Saint, nous préparons la fête comme d'habitude. Même si financièrement ça ne va pas, mais on fait avec.
Ici, à Kai, Noël se prépare comme d'habitude. Les choristes ont commencé les répétitions des chants pour la fête.
Notre chronique Zoom sur d'aujourd'hui s'intéresse aux petites astuces appliquées par certains Maliens contre la fraîcheur. C'est avec Aïssa Tayara.
Les mois de décembre, on ne blague pas du tout avec la fraîcheur. Les vents frais qui se dégagent tous les matins sont insupportables. Mais pour y faire face, les astuces ne manquent pas. Celle qu'on appelle le blindage simple consiste à porter une veste sur un pullover pour se maintenir chaud pendant cette fraîcheur. Les partisans de cette ruse sont surtout les motocyclistes. Ici, la beauté et l'harmonie de l'habillement sont mis à côté. Tout ce qui compte, c'est de se protéger du froid. Et pour bien y arriver, il y a la méthode ninja. Elle consiste à porter à la fois deux pantalons, trois chemises sous un pullover. Et pour ne donner aucune chance au froid, on porte des chaussures fermées, des chaussettes et des gants, sans oublier des bonnets lourds et les grosses lunettes. Ce n'est pas tout. Chez les femmes, l'idéal, c'est d'attacher plusieurs pagnes et porter des pantalons ainsi que des hijabs. Et surtout, on n'oublie pas l'usage du beurre de karité. Le plus amusant, ne vous hasardez pas à toucher vos proches avec vos mains fraîches, car ces derniers peuvent changer subitement d'humeur.
Les prix de la friperie ont grimpé à Koutiala depuis le début du mois de décembre. De plots verts qui étaient vendus à 500 francs CFA sont cédés à 1000 francs, voire à 1500 francs CFA. Les arguments avancés par les commerçants sur cette augmentation sont que ces habits sont prisés en cette période de froid. Ils ajoutent aussi que le prix de la balle de friperie sur le marché est en hausse. Ainsi se referme cette édition, mais avant, nous recevons Mariam Koulibaly. Quel sujet sera abordé ce soir ?
Aboubakrine Aladissé, maire de la commune urbaine de Tombouctou, Aboubakrine Baïsissé, président du syndicat des commerçants détaillants de Tombouctou, Baba Moulay Haïdara, président de l'association des consommateurs de Tombouctou. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Tombouctou, une région résiliente face aux défis sécuritaires ». L'émission est réalisée depuis la région de Tombouctou dans le cadre du festival « Vivre ensemble ».
Merci Mariam Koulibaly et bon débat. Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilomaïga. Merci de l'avoir suivi.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme Monsieur Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Erreur médicale ou encore négligence médicale au Mali, c'est le thème de notre magazine Santé du jour. Les centres de santé, les structures hospitalières ainsi que les cliniques n'échappent pas à ce phénomène au Mali. Certains patients ont eu un handicap suite à un mauvais diagnostic ou traitement. Parfois, d'autres y perdent leur vie. Le plus souvent, des médecins, infirmiers et sages-femmes sont pointés du doigt par ces derniers ou ses proches. Moussa Malé-Sissoko a interrogé les médecins, usagers et juristes suivant leurs explications dans ce magazine Santé.
Le cas le plus récent est survenu dans un hôpital de renommée à Bamako où une dame a donné naissance à un bébé prématuré de 6 mois. Une négligence des agents de santé a conduit à l'amputation d'une main du nouveau-né. Sous l'anonymat, cette nouvelle maman en sanglots s'est efforcée de témoigner.
Ce jour-là, les services de nettoyage nettoyaient la salle. Cela a duré 2 heures de temps. Au même moment, le cathéter qui se trouvait sur la main de mon bébé s'est perforé et le sang dégouliné. Comme cela a duré, certains de ses doigts sont devenus immobiles. Puis, les autres doigts aussi sont infectés. Les médecins m'ont proposé d'amputer sa main, chose que nous avons eu du mal à accepter. Après, les médecins ont coupé la main de mon garçon.
Ça me touche.
Le jeune Ibrahim, résident à Gao, est aussi victime d'erreurs médicales. Une injection mal faite lui a donné des séquelles à vie quand il n'y avait que 2 ans.
Je suis victime des erreurs médicales. Il m'a rendu handicapé. Les erreurs médicales, ce sont des erreurs qui peuvent empêcher beaucoup de choses à la personne même, comme moi. Car aujourd'hui, il y a des choses à cause de mon handicap. Je ne peux pas les avoir.
Certains usagers de Ségou, San et Tomignan expliquent leur mauvaise expérience avec les structures de santé.
Vraiment, ils négligent trop les malades, les médecins, pas du tout gentils.
Souvent, ils ne sont pas du tout accueillants, alors qu'on doit vraiment tenir compte de l'éthique et de la déontologie.
Quand on me demande des erreurs médicales, je peux attribuer ça à une compétence de l'infirmier.
L'Ordre des médecins du Mali a pour mission l'organisation et la représentation de la profession. L'inscription au sein du groupement est obligatoire pour tout médecin. Alors, quelle voie de recours en cas d'erreur médicale? Le président de l'Ordre, professeur Al-Kadri Diara, y répond.
L'ordre peut être saisi par le ministre de la Santé, le ministre de la Justice aussi peut faire. Chaque fois qu'il y a un problème entre un médecin et quelqu'un d'autre, dans le cadre de la pratique, la personne peut saisir l'ordre. L'ordre est une juridiction disciplinaire. Donc, l'ordre peut faire des sanctions qui vont l'amener à perdre carrément sa fonction de médecin.
Le président de l'ordre des médecins précise que la réparation des victimes n'est pas du ressort des médecins. Il ajoute que 4 sanctions sont prévues en cas d'erreur ou manquement, l'avertissement, le blâme, la suspension et la radiation du médecin ou autre agent de santé.
Quand il y a une plainte contre un médecin, donc il y a une commission disciplinaire qui se réunit, fait des propositions de sanctions, on décide de ce qu'il faut faire. C'est une juridiction disciplinaire. Nous ne traitons pas les questions civiles de réparation en termes d'argent, non. Le juge est tenu d'informer le président de l'ordre avant toute poursuite contre un médecin.
Ismaïla Yoro Diko, président de la Convention des juristes du Mali contre un agent de santé, rentre également dans le cadre du Code pénal du Mali.
Chaque fois que je dois attaquer une infirmière, un médecin ou bien autre, je me rassurer que vraiment, ils n'ont pas fait leur travail. Et même sur le plan juridique, si le médecin est jugé coupable, généralement, c'est l'hôpital qui va prendre en charge, quoi, en termes de responsabilité. On peut contacter l'ordre de médecin qui, à son tour, va quand même entamer des enquêtes pour vérifier est-ce que tous les protocoles ont été respectés ou pas. C'est la justice qui va trancher.
Erreur ou supposée erreur médicale, de nombreuses familles s'en remettent à Dieu, peu importe le degré de la faute commise. En outre, des Maliens se plaignent de la qualité des services dans les structures de santé.